Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le volet découverte littéraire et lecture à voix haute de l'émission Poiesis. Je vous propose une lecture d'Antoine Mouton, Honore tes parents, un livre publié aux éditions de la Contre-Allée. Je vous souhaite une bonne écoute. Honore tes parents. Une seule fois, je leur ai demandé où on allait. Une seule fois, ils m'ont répondu « Honore ». Alors j'ai toujours su qu'ensuite, quoi qu'on fasse, on irait au nord. Aussi n'ai-je plus rien demandé. J'étais à l'arrière de la voiture, et le ciel courait derrière moi, le temps avec la route, le jour, la nuit, les arbres. D'eux, ce que je connaissais le mieux, c'était leur nuque. La mienne, seule, le soleil et la lune pouvaient la voir, la réchauffer, l'étreindre au travers du pare-brise. Si je couvrais celle de ma maman de tout petits baisers, elle me disait « Arrête ça, j'ai mal au cœur. Tu ne vois pas que j'ai mal au cœur ?» Mais en vérité, c'était mon cœur à moi qu'elle déchirait. J'étais leur soleil et leur lune, et ça ne leur plaisait pas. Ils auraient préféré rester entre eux, ils auraient préféré qu'entre eux et moi, il y ait un pare-brise opaque. Les astres et les anges accompagnaient mes nuits sur la banquette arrière. Et ils étaient comme mes parents. Ils ne parlaient jamais. D'ailleurs, je ne posais pas de questions, je n'étais pas curieux. Et comment aurais-je pu l'être alors que je ne voyais du monde que son allure générale, de grandes traînées de couleurs, des lumières qui filent et rien que je puisse retenir ni figer en moi. Mes parents étaient deux points fixes à l'avant de la voiture et le monde autour de nous était une grande abstraction. Mes questions, les autres, les seules que j'aurais pu poser, portaient sur les astres et les anges. Et ça, les anges, c'était interdit. Dans cette voiture, on ne croyait pas en Dieu. Par contre, les astres, on pouvait m'en parler, on pouvait m'en dire des choses parce que papa connaissait la physique et maman l'astrologie. Le soleil, c'était la personnalité et la lune, l'enfance et l'imagination. Ensuite, on me montrait Vénus, l'amour, mais je ne voyais rien, j'avais la vue basse. Et on ne s'en était pas rendu compte alors, quand je me cognais, on disait que j'étais maladroit et on rigolait sur ma pomme. Mais moi, l'amour, on avait beau rigoler quand même, je ne voyais pas. Oh maman, maman, j'écris cela parce que tu es morte et parce que le Nord t'a rejointe avant que tu ne l'atteignes. Je me souviens de papa qui écrasait les chats quand il conduisait vite. Il ne s'arrêtait jamais pour les ramasser. Leur offrir une mort honorable, un peu de terre ou même une poubelle. Non, au contraire même, il accélérait et moi je pleurais. Mais toi, maman, tu baissais le pare-soleil et tu me regardais dans le petit miroir pour me dire droit dans les yeux « Ton père est scorpion, il aime la mort, ça le fascine. » Et papa ne disait rien, il conduisait toujours plus vite. Alors je suppliais les anges, en cachette, de bien vouloir lui pardonner. Et j'ordonnais à Pluton de ressusciter les 100 chats qu'on avait tués. Notre voiture, c'était la mort. Et ça me fascinait la vitesse, parce que ma lune était en scorpion. Plus le monde était flou, plus je me sentais vivre. Comme si ma vie n'était qu'un passage, un mouvement de l'âme, un exil sec et bref. Nulle part je n'étais chez moi, sauf dans cette voiture. Derrière papa, derrière maman. Papa avait vécu au Grésil, très longtemps. Le Grésil, c'était au sud, on me l'avait dit. Alors pourquoi maintenant, comme un fou, papa traversait la France pour atteindre le nord? Qu'est-ce qu'il y avait au nord de si magique et si resplendissant? Il y avait Dieu? Dieu non, puisqu'il n'y croyait pas. Alors, maman était là, moi j'étais là. Qu'est-ce qu'il trouverait de mieux au nord? Est-ce que là-bas, c'était le bout du monde? La fin du monde, les images qui se posent dans le cadre de la fenêtre, les paysages qui se figent et le moteur qu'on laisse refroidir une fois pour toutes? Au nord, la neige, la glace, le scintillement des étoiles sur la terre en suspens. Là-bas, tout le monde finissait et l'univers tournait toujours. C'était ça, la légende de la banquette arrière. C'était que tout mouvement se perdait dans l'espace. C'était qu'un jour, tout finissait. Oh maman, maman, pourquoi tu ne m'as pas dit que le nord, c'était comme le reste? C'était juste une destination, juste un point sur la terre qui tournerait toujours. Et qui tournerait sans toi même quand tu serais morte. Pourquoi la fin, ce n'est pas le repos, mais au contraire la souffrance qui se traîne comme un ange égaré? Maman, tu étais cancer, un cancer te rongeait la poitrine, et tu perdais la tête, maman. D'un coup, dans la voiture, tu disais « N'importe quoi, tu frappais papa avec tes coups de pointu, tu m'insultais, tu disais que moi, tu ne m'avais jamais voulu. » Et puis tu disais « Plus rien ». Tu nous regardais bizarrement. Alors tu me prenais dans tes bras et ton cœur palpitait, je sentais ta poitrine battre contre mes yeux. Tu disais « Neptune en poisson, je fais n'importe quoi ». Contre mes yeux, ton cancer, ton mal, tes ténèbres, et je ne voyais plus rien. Je t'entendais juste respirer. Et quand tu respirais moins vite, enfin, tu défaisais notre étreinte. Et je voyais tes yeux baignés de larmes. Et c'était seulement pour voir ces yeux-là, plein de larmes, que j'acceptais qu'on interrompe notre étreinte. C'était seulement pour te voler cette émotion magnifique. C'était pour tes beaux yeux noyés. Alors je pensais, sans toi, je serais mort, maman. Et tu retournais t'asseoir à la place du mort, sans toi, je serais mort sans toi. Papa, lui, ne disait rien. Et comme il ne disait rien, je croyais qu'il ne pensait rien. Qu'il était un monstre. En quête de glace, de nord, son univers de prédilection est qu'il ne t'aimait pas. Pas comme moi, pas aussi fort en tout cas. Parce que plus fort que moi, on ne pouvait pas. On allait d'une ville à l'autre. On baissait les sièges de la voiture pour dormir dedans. Tu demandais toujours, ça ne t'ennuie pas? Qu'on ne soit pas à l'hôtel, qu'on n'ait pas de maison. Et je savais que je devais répondre non. Quoi qu'il arrive, sinon vous m'auriez maudit, papa et toi, et vous m'auriez détesté et exclu, car je vous aurais empêché de vivre votre course, votre épopée, votre vie, que vous soumettiez à votre seul désir, alors je disais non. Et tu choisissais un emplacement près d'une rivière ou d'un ruisseau, parce que tu savais qu'avec le bruit de l'eau, je m'endormais plus facilement. Mais on ne se lavait pas dans la rivière. On n'était pas pauvres. Non, cette vie, c'était un choix. Pour se laver, on allait à la piscine municipale. Et tout le monde regardait papa, qui se rasait comme un mendiant. Mais papa n'était pas un mendiant. L'hiver, on restait plus longtemps dans les villages. On louait des chambres d'hôtel, mais jamais des chambres d'hôtes. Sûrement parce que vous ne vouliez pas vous trouver chez quelqu'un, vous vouliez être chez tout le monde, vous vouliez disparaître, vous ne vouliez croiser personne qui vous rapproche d'une existence normale. Dans les hôtels, les lits étaient toujours trop mous, trop droits. Et je ne pouvais jamais m'endormir à l'heure que tu avais décidé. Papa était l'un des derniers forgerons. Les usines faisaient appel à lui pour lui donner du travail. Mais lui, non, il n'acceptait jamais. Ou alors des missions très courtes. Et ça ressemble à un caprice, mais c'était une nécessité. Il lui était arrivé de succomber à deux ou trois de ses offres. Alors on louait une maison. Mais au bout de 3 mois, il fallait reprendre la route, et vite. Et de toute façon, ça n'avait pas d'importance. On n'avait pas encore acheté de meubles à nous. Il y avait le nord, cette obsession, qui nous tenait toujours en mouvement, en fuite, en vie, en liberté. Papa fabriquait de petites pièces de forge qu'il vendait suffisamment cher pour qu'on tienne une semaine sans rien demander à personne. Maman, toi, dans les astres, tu prédisais l'avenir aux gens qui te payaient pour ça. Tu donnais aussi des cours particuliers, et quand ce n'était pas aux autres, c'était à moi que tu t'en prenais. Tu m'as appris à lire très tôt, à écrire très tôt, à compter très tôt. Tu voulais que je sois en avance sur tout le monde, que jamais je n'ai besoin de l'école et que tu me suffises. On le savait, l'école, c'était la mort. L'école, ça voulait dire rester au même endroit, de septembre à juin, et ça, ce n'était pas envisageable. Ça voulait dire aussi apprendre quelque chose de quelqu'un d'autre que toi. Et jamais pour rien au monde, je ne t'aurais été infidèle. Il aura fallu que tu meures pour que les autres m'intéressent, et encore. Et encore, depuis que tu es morte, j'ai l'impression de ne rien apprendre, de recommencer toujours les mêmes erreurs, avec la même naïveté. C'est parce que sans toi, je suis bête. Parce que c'était toi qui tenais la carte dans la voiture et qui indiquais le chemin à papa, tandis que moi, je me laissais porter. Je cherche toujours quelqu'un pour me porter maintenant. Mais je ne trouve jamais que des usurpateurs, des faux, des infidèles. Et si j'étais ton seul enfant, tu peux te rassurer, tu seras ma seule maman. Tu disais que tu avais eu le concours de l'IUFM. Et moi, je pensais que c'était un concours de chant sur IUFM. Je croyais que tu étais chanteuse et que papa avait décidé de t'épouser en t'entendant chanter à la radio. Pourtant, j'entendais bien que quand tu me chantais des chansons, que les notes étaient fausses. Mais je ne voulais rien savoir, tu penses, des faiblesses de sa maman. On ne veut rien savoir. Papa, à la radio, n'écoutait que de la samba. Et toi, tu détestais la variété. Tu disais « ça, c'est de l'eau de rose ». Et tu changeais de station. Alors moi aussi, du coup, dès que j'en entendais, je disais que c'était de l'eau de rose et qu'il fallait changer. C'est comme ça que mon goût s'est forgé à travers toi, ma sensibilité, mon oreille, mon émotion. La samba, ça passait souvent sur une radio précise. Et papa te demandait toujours de la trouver avec l'aiguille. Alors tu tournais l'aiguille du poste pendant 3 heures, sans succès, et papa finissait par te dire que tu y mettais de la mauvaise volonté. La samba, c'était la musique du Grésil, la musique du Sud, qui nous guidait vers le Nord. Mais moi, je préférais la musique des anges et le chant des étoiles. Dès que la fréquence tombait sur France Musique, je devenais fou. Je dansais, je hurlais sur la banquette arrière. L'orgue me rendait dingue et le violon, marteau. Ça changeait des tambours et des castagnettes. Mais papa disait « Change, mais change donc !»« Marie-Hélène, tu n'entends pas que le poste grésille ?» Et ce grésillement, qu'il était le seul à entendre, ce n'était pas le battement des ailes des anges, non. Ce devait être une voix du passé. Ce devait être le cri du grésil qui lui disait « Reviens, reviens, écoute-nous. Tu n'entends pas ? On chante, alors écoute-nous. » Je ne comprenais pas encore que papa avait atteint un niveau de tristesse intolérable qui le retenait à la terre comme un malade à son lit d'hôpital. Papa disait bientôt « Nous aurons quadrillé la France entière. » Et moi, j'imaginais aussitôt la France avec des traits horizontaux et verticaux qui formeraient comme un grillage infranchissable. Un grillage entre moi et une terre qui serait peut-être la mienne. Dans les livres, il était question d'amitié. Et il m'arrivait de croiser d'autres enfants, de mon âge, dans les villages qu'on traversait, mais jamais je ne leur parlais. Je croyais que si je leur adressais la parole, ils m'emprisonneraient dans leurs univers fixes. Et je ne pourrais plus jamais vous rejoindre dans votre mouvement perpétuel. Une simple amitié, et vous m'auriez abandonné. Plus on avançait vers le nord, et plus il faisait froid, d'ailleurs, c'était l'hiver, les routes étaient enneigées. Et lorsqu'il n'y avait pas de neige, il y avait de la brume épaisse sur tous les paysages. Et c'était comme si on s'enfonçait dans un grand nuage quand on partait à l'aube. Les vitres se recouvraient de buée. Je ne voyais ni le soleil ni la lune, et les anges s'estompaient dans un grand nuage. Mais ce n'était pas grave. Il y avait la samba pour nous accompagner sur les petites routes de campagne. J'étais malade et j'avais froid. Alors, pour m'empêcher de trembler, je gardais mes mains jointes tout près de mon cœur et je baissais ma tête pour souffler sur mes mains. Quand papa a vu ça, il a stoppé la voiture. Il est descendu, il a ouvert ma porte, il m'a collé une gifle. Jamais, tu m'entends, jamais je ne veux te voir avec les mains en prière. C'était très clair. Puis il est remonté à sa place, comme si rien ne s'était passé. Sauf qu'on roulait beaucoup plus vite et que maman avait baissé la musique. Et la nuit et le froid qui guettaient descendaient sur nous, sur notre chariot, sans Dieu. Comment, mais comment pouvais-tu, maman, aimer ce bonhomme sinistre? J'aurais tant voulu voir tes yeux quand il m'a donné cette gifle. Mais tes yeux, je les ai cherchés. Ils n'étaient pas là. Tu avais relevé le pare-soleil et je ne voyais que tes cheveux frisés et ta nuque glacée. Alors tes yeux, ils étaient où à ce moment-là? J'ai cru que tu ne m'aimais plus, que tu ne m'avais jamais aimé, que tu m'avais trouvé sur la route et que tu t'étais dit « Pourquoi pas un enfant? Ce serait peut-être moins con qu'un chat. » C'était papa qui m'avait giflé, d'accord? Mais moi, alors, je me mis à imaginer des choses terribles. Ce geste de papa n'était rien comparé à l'absence de ton regard. Comment pouvais-tu l'aimer, lui, alors que tu m'avais moi? Tu m'avais moi et tous ces anges qui m'accompagnaient. Et ça, tu le savais pourtant. Alors pourquoi? Pourquoi tu n'as pas pris la fuite avec moi? Pourquoi tu es resté avec ce grand scorpion aux dards vénéneux? Non, vraiment. Toujours pas. Je ne voyais toujours pas Vénus. Et de toute façon, papa refusait de m'amener chez l'ophtalmologiste. Parce que son fils avait une vue parfaite, oui, parfaite. Son fils n'était pas un handicapé. Ni handicapé, ni mystique, ni débile. C'était beaucoup de choses que je n'étais pas. C'était beaucoup de mots qu'on éloignait de moi. Et pour me définir, il me restait peu d'adjectifs. Et puis un jour, il a fallu que nous nous arrêtions. Tu toussais beaucoup. Tu t'évanouissais. Tu préférais rester longtemps allongé toute la journée plutôt que de reprendre la route. Tu étais allé voir un médecin qui t'avait dit que tu avais développé un cancer et que ça n'allait pas s'améliorer, madame, oh non. Papa avait trouvé du travail à Metz et nous habitions la banlieue dans un appartement meublé. Mais nous laissions toutes nos affaires dans les valises. Un soir, papa est entré. Il avait dans les mains une télévision pour toi, pour que tu ne t'ennuies pas la journée. Et ce soir-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré d'abord parce que la journée, tu ne risquais pas de t'ennuyer. J'étais là, alors, une télévision, à quoi ça aurait pu te servir, maman? Je te le demande, à quoi, puisque j'étais là, près de toi, et qu'avec moi, tu ne te plaignais jamais? J'ai pleuré ensuite parce que ça voulait dire qu'on ne partirait jamais d'ici, qu'on n'atteindrait jamais le nord, que la grande course s'était finie, qu'on allait m'inscrire à l'école. Ah non. Ah ça non, plutôt mourir. C'était la première fois qu'on avait un meuble, à nous. Et pourtant, on n'était pas au nord. Et j'ai pensé à ce moment que les anges nous abandonnaient, que les anges ne venaient au secours que des hommes sans meubles et sans terre. D'ailleurs, toi tu m'as dit, parce que tu voyais bien que ça me faisait de la peine cette télévision, tu m'as dit je vais guérir, c'est sûr, je vais guérir, j'ai de la force. Moi j'ai Mars en Lion, mais je n'y crois plus à tes astres. Déjà Mars en Lion c'était n'importe quoi, c'était comme Snickers en Bounty, et ça ne voulait rien dire. Je ne croyais plus en rien désormais. Et en quoi aurais-je pu croire après l'échec de notre épopée folle? À quoi ça avait servi tout ça, toute cette samba, pour qu'on se retrouve à Metz maintenant? Et Metz sans les anges, c'était rien, c'était nulle part. Ça ne valait pas le coup de s'arrêter tellement. Ça paraissait triste. Je savais bien que jamais on ne repartirait, et qu'il faudrait que je me coltine cette institutrice hideuse jusqu'à la fin de l'année, cette institutrice avec ses verrues sur le nez, qui croyait m'instruire mieux que toi, maman. Les anges autour de nous s'effaçaient dans ta maladie. Alors j'ai poussé la télévision par terre, elle a fait un bruit sourd, et papa m'a regardé en souriant. Il avait le sourire des anges, celui que j'avais toujours cru voir dans le pare-brise, celui que j'espérais. Je me suis réfugiée dans ses bras à lui, et je t'ai été infidèle maintenant, je te l'avoue. J'ai même souhaité à cet instant précis que tu meures, très vite, pour que papa et moi, on aille au nord tous les deux, sans toi. Mais sans toi, ce n'était pas possible d'aller plus loin. Sans toi, papa ne se donnait même plus la peine de paraître vivant. Je savais que tu n'allais pas guérir, mais je ne savais pas que tu allais mourir. Quand tu es entré à l'hôpital, quand on m'a laissé te voir, tu m'as dit « Tu sais, ton père, au Grésil, il avait une autre femme et un autre fils, parce qu'il est ascendant Gémeaux et que le Gémeaux, c'est double. Et sa femme et son fils, il les a tués tous les deux dans un accident de voiture. Il ne te l'a jamais dit, ça, hein ? Il ne te l'a jamais dit. Alors, à mon père, j'ai tout pardonné. Et les chats qu'on assassinait, et la gifle, et les anges qu'on ne laissait jamais chanter. Mais je lui ai dit, papa, maintenant j'ai peur de toi, et je ne veux plus que tu sois mon papa. Il n'a rien dit, je crois. Et le soir, au moment de dormir, il ne venait plus m'embrasser. Mais ça ne me dérangeait pas. C'était même mieux, comme ça. Quand tu es morte, maman, j'ai vu ta mère, ma grand-mère, pour la première fois. Une vieille femme en manteau de fourrure avec des bracelets bruyants. Et elle m'a dit en fronçant les sourcils. Elle est en haut maintenant, ta maman. Elle a rejoint Dieu. Papa était derrière moi à ce moment. Et il n'a pas bronché. C'était étrange qu'il laisse venir Dieu parmi nous. Mais je suppose qu'il devait la craindre, la vieille. Et qu'il tolérait tout venant d'elle, même le pire, même Dieu. Elle est en haut maintenant, ta maman. Elle a rejoint Dieu. Et cette phrase, elle m'était restée dans le crâne. Alors j'ai gardé une carte. Et sur la carte, j'ai vu que le sud, c'était en bas et le nord en haut. Et si ta mère avait dit que tu étais en haut, ça signifiait que toi, tu y étais arrivé au nord. Et que nous, papa et moi, il faudrait qu'on attende encore. Qu'on attende la mort. Alors le nord qu'on cherchait, c'était ça. C'était le royaume des anges. C'était le paradis. C'était Dieu, c'était toi. On vivait comme ça, avec ton souvenir, toujours présent. Et soudain, papa m'a dit « Je ne m'occuperai plus de toi. Ce n'est pas pratique. Il faudra que tu ailles à l'internat. » Papa, vraisemblablement, n'avait pas compris les choses comme moi, que ton départ n'était qu'une avance que tu prenais sur nous pour le pays des glaces. Il m'a juste dit « Je te laisse libre de choisir l'internat. » Et je pensais « Est-ce qu'on propose aussi aux prisonniers de choisir leur cellule ?» Sur la carte, j'ai vu des villes au nord. Et j'avais retenu leur nom. Alors j'ai choisi Lille, parce que Lille, ça sonnait comme exil. Et que là-bas, on enseignait le catéchisme. Mais je cherche toujours, et toi, et Dieu, et les anges. Et je ne parviens plus à récolter que des sanglots amers. Sanglots sans goût, pas sucrés pour un sou. Et bien sûr, la cour, avec ses grands murs droits et cette ouverture étroite sur le ciel, où le soleil et la lune se glissent par miracle. C'est un peu comme la voiture, avec le pare-brise. Sauf qu'ici, les anges ne filent plus à toute allure dans les arbres, et le vent ne fouette plus mon visage comme avant. Comme avant, maman, quand je faisais semblant de dormir pour que tu me prennes dans tes bras, qu'on allait s'arrêter et qu'il faudrait sortir de la voiture pour rejoindre l'hôtel. »